À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère.
Mais alors, dans votre école, quand est-ce que les enfants apprennent ce qui est nécessaire pour lire, écrire, calculer? Quand est-ce qu'ils font des exercices? N'ont-ils jamais besoin du maître? Qu'est-ce qu'il fait le maître? Les enfants se débrouillent-ils tout seuls? Y a-t-il même besoin d'un maître? C'est une autre question qui inquiète, voire angoisse tout le monde. Les enfants sont auteurs de leurs apprentissages. Tout le monde, ou presque, est d'accord aujourd'hui sur ce point. Tout au moins, tous les scientifiques, en particulier ceux qui se penchent sur le cerveau, les neurophysiologistes, les cognitivistes, les psychologues. On continue de chercher comment on apprend, on commence à l'entrevoir, et ce sur quoi tous s'accordent, c'est que cela se passe dans ce que l'on peut appeler de façon simple le tâtonnement expérimental, et que cela se passe différemment et à des rythmes différents pour chacun. C'est à partir de cela qu'il faut envisager la nouvelle problématique de l'école. Dans la chronique précédente, je vous avais expliqué qu'une école du troisième type était un espace où des enfants, dans un groupe d'enfants multi-âges, peuvent réaliser un peu différemment qu'à la maison une infinité de projets personnels ou collectifs. Je vous avais aussi expliqué que la première condition pour que cela se réalise et que dans ces activités diverses se construisent des langages particuliers, c'est que l'espace scolaire soit aménagé et conçu d'une façon particulière. Voilà la première tâche à laquelle doivent s'atteler l'enseignant et les équipes d'enseignants. Dans quel environnement vont-ils permettre à un groupe d'enfants de vivre quotidiennement? Que faut-il mettre en place pour que des projets divers puissent se réaliser et être producteurs ou utilisateurs de langage? Comment faut-il aménager l'espace de l'école en fonction de ses finalités, mais aussi pour qu'il permette et favorise la libre circulation, le bien-être, la vie? Comment faut-il concevoir l'embryon de structure qui va permettre l'interrelation, l'expression, les interactions, l'auto-organisation qui vont être nécessaires pour que puisse se constituer un système vivant? En ce sens, l'enseignant est d'abord un ingénieur, un architecte des groupes sociaux. Puis il faudra qu'il veille à ce que le système vivant perdure et puisse évoluer, comme tous les systèmes vivants. Le temps de la réunion qui est peut-être mal placé, telle ouverture vers l'extérieur qui est peut-être prématurée, tel meuble, telle table qui gêne et qui doivent être disposés autrement, telle règle qu'il faut momentanément imposer, tel outil qu'il devient nécessaire d'introduire ou tel atelier qu'il faudrait installer, etc. En ce sens-là, il devient le capitaine, le pilote d'un navire qui doit pouvoir naviguer à travers des turbulences, conduire vers des horizons lointains, permettre à l'équipage de bénéficier du voyage. Régler les haubans, réduire la voilure ou hisser la voile de misaine. Alors, venons-en à ce qui turlupine tout le monde. Quand l'enseignant est-il pédagogue? Est-ce que toute la batterie pédagogique habituellement utilisée est à jeter au feu? Bien sûr que non. Mais cette fois, ce n'est plus en amont d'une activité encore inconnue qu'un apprentissage réalisé est censé permettre. Prenons un exemple simple. Pourquoi un enfant va s'astreindre à apprendre à faire du vélo en sachant qu'il va courir le risque de chute et d'égratignure? D'abord parce que ses copains font du vélo, ont acquis un pouvoir qui leur donne une liberté nouvelle, un pouvoir de jouissance aussi, jouissance de la vitesse par exemple. Son objectif ne sera pas apprendre à faire du vélo pour ce simple fait, mais suivre ses copains, pouvoir être plus libre, pouvoir goûter d'un autre plaisir. Sans cette envie provoquée par la vue des autres, il sera difficile de le faire monter sur un vélo. Et avant de savoir faire du vélo, il faudra qu'il enfourche un vélo. Alors, l'adulte pédagogue non professionnel va pouvoir l'aider mieux. Il pourra être écouté. Il pourra même lui prodiguer des conseils, tenir la selle, proposer des exercices. Par exemple, essaye d'abord dans cette pente sans les pédales, je vais te les enlever. Parce qu'il sait, lui, que l'enfant va devoir intégrer, entre autres, dans de nouvelles connexions neuroniques, que l'équilibre est alors lié à la vitesse de déplacement du mobile. Cela ne s'explique pas, cela s'expérimente. Eh bien, c'est ce qui se passe dans l'école du troisième type. Dans chaque réalisation de projets qui lui sont propres, l'enfant va se heurter à des difficultés langagières dans tous les types de langage dont il aura besoin. Apprendre qu'il faut accorder les noms et les adjectifs au pluriel n'a pas grand intérêt en soi. Mais lorsque la lettre que l'on veut envoyer à un copain, le texte que l'on voudrait faire lire à d'autres, ne sont plus lisibles à cause de cela, alors le recours à l'adulte va de soi. Il peut être sollicité. Il n'a plus à lui dire « tu as fait une faute », mais peut lui dire « les autres ne vont pas comprendre ce que tu veux et a envie de leur dire ». Il peut alors expliquer pourquoi l'enfant ne va pas être compris parce que l'écrit est régi par des règles et proposer une activité grâce à laquelle l'enfant va pouvoir s'entraîner. L'objectif de l'enfant n'est pas de ne pas faire de faute, mais de pouvoir se faire comprendre par celui qui le lira, et ne plus avoir besoin de l'enseignant pour cela. Être autonome pour réaliser ses projets. On retrouvera cela dans toutes les activités dans lesquelles l'enfant s'engagera. Si c'est dans la construction d'un cerf-volant, ce sera peut-être un problème de centre de gravité qui empêchera le cerf-volant de s'envoler, et pour l'équilibrer, il faudra peut-être que l'enfant sache mesurer, partager un axe entier, et cela va être le langage mathématique qu'il va falloir que l'enseignant l'aide à travailler et lui propose des pistes, dans lesquelles il n'hésitera pas, puisqu'il veut avoir le plaisir de voir son cerf-volant planer. Peut-être même que la représentation des centimètres et des millimètres deviendra en elle-même un jeu passionnant, qu'elle se heurtera à la numération et que l'enfant s'engagera dans un nouvel objectif avec l'aide du maître. Parce que le rôle de l'enseignant, pédagogue cette fois, c'est aussi d'inciter, de saisir les occasions qui font aller plus loin ou qui font aller ailleurs. Le rôle pédagogique ne se situe plus dans un amont programmé, mais pendant la réalisation de projets, au fur et à mesure des besoins. S'il faudra toujours que les enfants sachent accorder des mots, comment sont construits les systèmes de numération, si la quantité de procédés pédagogiques seront toujours utiles, il faudra l'attention aiguë de l'enseignant pour saisir à quel moment il va inciter les enfants à s'emparer de telle ou telle notion, à quel moment il va utiliser son bagage professionnel. Nous verrons qu'il a aussi d'autres rôles à jouer. Le temps est fini où l'on pouvait enseigner en se contentant de suivre les manuels et leurs indications. Mais c'est passionnant.
Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.